quand j'existe, c'est que de la poésie m'est arrivée.
Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints. Nous vous emmenons tout de suite vers le pays spirituel de Yannick Hanel.
La première,
13h15, 14h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Je ne vais pas raconter ma vie. Je suis à la recherche de ces instants qui, précisément, ne se racontent pas, où le temps se met à glisser hors de lui-même, où l'on passe par le trou. C'est là, dans les trous, que ça a lieu. C'est là que j'ai vraiment vécu. 10, 13, 15 fois en 40 ans. L'existence prend alors la forme d'une extase. Elle tourne sur elle-même et vous illumine. Pour une heure, une journée, le temps d'un éclair, vous surgissez du cadre. Votre vie se dégage. Vous n'avez plus d'attache. Ni père, ni mère, ni pays. Aucune identité. Vous n'appartenez plus. C'est une joie. Écrire des livres consiste à faire parler ces instants de foudre. Voilà ce qu'écrivait notre invité il y a quelques années. Avec Yannick Hanel, nous allons tenter de les traquer, ces moments hors du temps, et au passage nous discuterons de l'amour, du Caravage, de solitude, de la vie, de la vérité, du Christ et des temps de crise que nous traversons. Et puis vers 13h50, à l'approche des élections européennes, coup de projecteur dans notre grand dictionnaire sur le philosophe Jan Patočka. Il serait la dernière grande figure de l'esprit européen. Soyez les bienvenus dans Dieu dans tout ça.
Le magazine des philosophies et des religions, sur la première.
Yannick Hanel, vous êtes écrivain et vous co-animez la revue littéraire Ligne de risque. Vos derniers livres ont pour titre La solitude, Caravage et Tout est accompli, un essai que vous avez co-écrit. Quand avez-vous commencé à exister, Yannick Hanel ?
Ah, c'est une question que je me pose peut-être à chaque instant. Enfin, je pense que l'existence ne va pas de soi, comme vous savez. Je pense que exister ne consiste pas seulement à envoyer son corps faire automatiquement des gestes qui nous sont demandés, mais que ça implique un saut. Le saut dans l'existence, la plongée dans l'existence, ça a lieu dans des circonstances singulières, enfin des circonstances amoureuses, des circonstances qui peuvent prendre la forme d'un ravissement face à une œuvre d'art. Et voilà, ça n'arrive pas tous les jours.
Donc on n'existe pas tout le temps.
C'est ce que je pense. Je ne fais que répéter au fond des choses que disait Pascal, par exemple, dans les pensées. Nous ne sommes pas en vie, vraiment. Enfin, être en vie, ça suppose autre chose, dont je crois parfois les humains soient incapables, soit dans mon cas, pas toujours capables. Quand j'existe, c'est que de la poésie m'est arrivée. Enfin, quelque chose de plus absolu, disons, me fait sortir de moi-même. Enfin, j'existe.
Si je vous posais la question, c'est parce que je pense avoir lu un morceau de réponse dans l'un de vos livres. J'ai trouvé Jésus dans une poubelle. C'était en 1977, j'avais 10 ans. Et c'est précisément, manifestement, le jour, le moment où vous avez dit « j'ai trouvé Jésus dans une poubelle » que vous avez commencé à exister, Yannick Hanel.
Oui, parce que c'est le verbe. Alors c'est vrai que dans cet incipit du sens du calme, dans cette première phrase, le mot « poubelle » est spectaculaire. Mais je pense que l'essentiel, c'est trouver, en fait. J'ai trouvé, effectivement, pour la première fois à 10 ans, le Christ, mais il était à ce moment-là déposé dans une poubelle sous la forme d'un grand crucifix de cimetière.
Rose,
voilà, que des éboueurs venaient de briser. Et j'ai vécu une sorte de drame, enfin, d'enfant, de voir ce crucifix déposé dans un lieu qui ne me semblait pas le lieu adéquat. Voilà. Donc j'ai eu une espèce de crise, au fond. J'ai existé, alors pour répondre à votre question, vous voyez, à ce moment-là, de manière folle et désespérée. C'était ma première expérience spirituelle, si je puis dire, avec l'innocence de l'enfant. Et c'était la mort de Dieu que je visais, au fond. Je ne savais même pas si j'avais cru avant ou si ces choses-là m'intéressaient, mais il y avait quelque chose de prodigieusement scandaleux, vous savez, au sens grec, du point d'achoppement. Je n'arrivais pas à en revenir de ça. Et effectivement, je raconte ça...
Et vous parlez de révélation.
Oui, parce que je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai sorti ce crucifix de cimetière, enfin cette croix, et je l'ai porté jusqu'à chez mes parents, chez ma mère en l'occurrence. Et ça a été une révélation sur là où nous en sommes à chaque instant, à savoir que l'essentiel est mis au rebut, sur la déchetterie qui est aussi l'humanité. Peut-être les choses qui nous importent le plus nous sont ôtées sans cesse. Voilà, il y a quelque chose de sacrificiel.
Et en même temps, vous précisez que vous n'avez jamais cru en Dieu, même enfant.
Oui, c'est une question trop grande pour moi. Enfin, je dirais ça comme Deleuze le dit de la philosophie, c'est trop grand pour moi. Je ne sais pas si je crois. Je fais de la littérature aussi pour me mettre dans la disponibilité de ce qu'il en est d'une expérience spirituelle. Voilà.
Au moment où vous avez rencontré, trouvé Jésus dans une poubelle, c'était d'ailleurs probablement le même jour, vous ne le savez pas exactement, vous avez vu un film, ce film.
Même un paysage tranquille. Même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples. Même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Pendant ce temps, Burger, ouvrier allemand, Stern, étudiant juif d'Amsterdam, Schmulski, marchand de Cracovie, Annette, lycéenne de Bordeaux, vivent leur vie de tous les jours sans savoir qu'ils ont déjà, à 1000 km de chez eux, une place assignée. Et le jour vient où leurs blocs sont terminés, où il ne manque plus qu'eux.
Ça fait froid dans le dos. C'est un extrait de Nuit et brouillard, un film d'Alain René sur les camps nazis, on l'aura compris, et ça vous a laissé littéralement sans voix.
C'est un grand souvenir terrible de mon enfance. Je crois me souvenir que c'était le même jour que cette fameuse découverte de Jésus dans une poubelle, et j'ai associé l'extermination des Juifs d'Europe et cette petite anecdote de ce crucifix flanqué dans la déchetterie. Et en tous les cas, effectivement, à 10 ans, j'ai vu ce film, Nuit et brouillard, qui date de 1955, si je me souviens bien, d'Alain René, parce que une institutrice remplaçante, ce samedi matin-là, c'était un samedi, ça j'en souviens, a jugé utile de nous montrer ça, sauf qu'on était trop petits, à 10 ans. Et ça a été ma première expérience de l'extinction de la parole.
Du silence.
On nous a demandé, après le film, de faire, vous savez, ces petits exercices qu'on demande aux enfants, de rendre compte de ce qu'on avait vu. Et là, bon, j'étais un bon élève, comme on l'est tous à 10 ans.
Pas forcément tous.
J'espère que si. Et en tous les cas, là, je n'ai pas pu dire quoi que ce soit. Non seulement j'avais pas compris ce qu'on voyait,
pas pu dire, pas pu écrire.
Donc c'est voilà.
Et donc vous avez rendu une copie blanche.
J'ai rendu une copie blanche et il me semblait a posteriori, c'est une reconstruction, que cette copie blanche disait mieux la chose que n'importe quel mot.
Et cette découverte avec le silence, elle a été importante, voire déterminante pour vous aussi également, Yannick Hanel.
Oui, parce que le silence, on a tous dans nos vies un usage du silence selon les circonstances. Et moi, ça a été le lieu d'une forme, évidemment, de pensée, mais aussi de désertion par rapport à des expériences. J'ai été très tôt envoyé dans un pensionnat militaire où j'ai dû ruser et où le silence devient le refus de coopérer. Vous voyez, le vœu de silence devient une arme redoutable. Enfin, quand on vous assigne à faire quelque chose, plutôt que de refuser verbalement, vous ne dites rien. Et c'est quelque chose qui m'a conduit à la littérature, en tous les cas, cette réserve de silence, vous voyez. Ce langage qu'il y a à l'intérieur du langage, mais qui n'a pas besoin de s'articuler.
Les écrivains, souvent, ils nous parlent des mots, de l'importance, du poids des mots. Et vous, quand on vous lit, vous attachez beaucoup plus d'importance aux phrases. Les phrases plutôt que les mots. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, c'est une entité qui, pour moi, a son commencement et sa fin. Donc, c'est une forme, au fond. J'ai plus d'amis artistes que d'amis écrivains. Et je m'entends bien avec eux, notamment les sculpteurs, parce que je crois qu'ils voient très bien que la phrase, pour moi, est une matière que je forge. Il y a quelque chose de... Je ne dis pas que c'est un organisme vivant, mais il y a quelque chose qui relève d'une plasticité, vous voyez, qu'on forme et qu'on déforme. Moi, je me sens plus poète que romancier, même si j'écris que des romans. Enfin, je n'arriverai pas à écrire un poème. C'est trop, là aussi, c'est trop grand pour moi. Mais c'est ça que je cherche, la poétisation du monde, peut-être, à travers une manière de fabriquer des phrases, de les sculpter, justement.
C'est l'éternel retour des phrases qui nous rend à chaque instant immortels. Ça, c'est une phrase que vous avez écrite après vous être réveillé en pleine nuit.
Oui, c'est une phrase... Je ne dis pas que je ne sais pas ce que j'ai voulu dire là-dedans, mais c'est un programme d'espérance, notamment, qui relève de, là, pour le coup, d'une forme de foi. Mais la foi que j'ai, elle est dans le langage lui-même. Je pense que les morts ne sont pas morts, parce qu'ils existent dans cette mémoire qu'on appelle la parole. Au fond, lire, je sais pas, lire François Villon, lire Dante, lire Nietzsche sont des gens qui sont plus vivants que nous, en un sens, parce que précisément le langage, les phrases, ont fait que se conserve quelque chose qui les rend alors immortels. Voilà.
Vous dites d'ailleurs que les phrases ressuscitent, qu'ils voient l'enfer et pénètrent au paradis.
C'est vrai qu'il n'y a pas de jouissance possible de l'existence, il n'y a pas de paradis si on n'est pas passé d'abord, si je puis dire, par l'enfer, si on n'est pas sorti de l'enfer. Moi, j'aurais tendance à ne pas croire sur parole quelqu'un qui ne parlerait que de ses extases, que de ses ravissements, que du ruissellement joyeux, sans en être passé par des expériences de dépossession. Vous voyez, j'aime beaucoup Saint François d'Assise ou les saintes, parce que précisément, ce sont des gens qui ont une expérience complète, justement, de l'existence. Ce sont des gens qui ont beaucoup péché. Vous savez qu'on ne peut pas être un saint ni une sainte si on n'est pas tombé, justement, très bas. Et voilà, c'est comme dans Une saison en enfer de Rimbaud. C'est une saison, c'est pas les quatre. Mais je vois pas comment est-ce qu'on pourrait se mêler d'écrire, comme dit Mallarmé, et faire de la littérature, si on n'a pas été requis par des expériences qui nous ont menés soit trop loin, soit pas assez, soit à côté, soit dans ce que j'appelle les instants de foudre, qui peuvent être des accidents, des maladies, des malheurs aussi.
Et vous avez besoin de l'enfer pour être un bon écrivain ?
Alors j'essaye de me sortir de l'enfer, de m'éloigner. En fait, ce qui m'intéresse, tout le contraire, c'est évidemment l'indemne, qui étymologiquement dit bien le nom d'année, ce qui n'est pas d'année. Moi, c'est ça que je cherche, mais la matière même de l'existence est faite d'autres choses. J'essaye de ne pas être requis par l'enfer, j'essaye de ne pas être nihiliste, voilà, comme le disait Nietzsche, mais évidemment que tout ça est plus compliqué que je n'ai
plus
l'air de le dire.
Plus facile à dire qu'à vivre ou qu'à faire.
Exactement.
Je vous cite encore Yannick Hanel, et cette fois-ci c'est un extrait de votre livre consacré au Caravage. « Un monde comme le nôtre, dont s'est retiré Dieu, s'éclaire pourtant à sa lumière. Si l'on met Dieu hors jeu, on ne parcourt plus qu'une planète éteinte. On n'en perçoit que les ravages. » Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Oui, je me dis, bon, ce sont des énoncés qui ont l'air peut-être abrupts, que j'essaye de vouloir nuancer, mais... Il me semble que vouloir vivre à ras d'existence, si je puis dire, en se passant de la question de l'absolu, qu'elle soit incarnée par une transcendance ou non, à vouloir vivre à ras de l'existence, on se prive d'une matière qui pour moi n'est pas religieuse, qui relève de tout simplement du sacré, c'est-à-dire d'une possibilité de métamorphose permanente. Et quand je regarde des œuvres d'art, et j'ai été requis notamment par le Caravage, pendant un an et demi pour écrire ce livre, mais c'est le peintre qui me plaît le plus depuis longtemps dans la vie, je me dis que quelque chose a lieu qui m'arrache à une forme de pesanteur et qui m'invite à, pour citer Simone Veil et ce très beau livre « La pesanteur à la grâce », qui m'inviterait de manière conditionnelle à m'ouvrir à cette forme de grâce. Je ne sais pas si j'en suis capable, vous voyez, mais je postule la question de la divinité, fût-elle absente, parce que sans la divinité et sans l'absence de la divinité, vous voyez, l'existence ne me semble pas, elle est vivable, mais elle me semble manquer de quelque chose qui relève de justement de l'appel, de la vocation à l'absolu, de quelque chose qui nourrit la littérature.
Donc cet appel, vous le vivez ?
Bien sûr, mais je le vis en écrivain, vous voyez.
Vivre
Dieu, ma déesse,
l'appel en écrivain,
ouais.
C'est vivre comment ?
C'est difficilement puisqu'on n'est jamais comblé par quelque chose à quoi on croirait. Je ne sais pas si quand on croit à un Dieu absolument on est constamment comblé, mais en tous les cas, essayer de vivre l'expérience de la littérature de manière absolue, c'est être constamment face à la fragilité de cette expérience et au fait qu'on n'est jamais sûr de la vivre, cette expérience. Vous voyez, c'est une expérience du doute, mais qui est un doute très fécond. Je pense que seul le langage peut nous sauver. Voilà, je pourrais le dire comme ça de manière péremptoire.
Et pourquoi vous le dites en rigolant, à moitié ?
C'est plus par pudeur, au fond.
D'accord.
C'est parce que j'ai peur de, à la fois que cette énormité soit mal entendue, soit mal interprétée, et parce que je pense qu'il y a un moment où on approche de choses qui font qu'on ne sait plus très bien ce qu'on dit.
Des choses qui vont au-delà du langage.
Absolument. Je suis très sérieux quand je dis que je pense que seul le langage peut nous sauver. Mais j'ai peur de le dire avec trop d'autorité. Non pas que je n'y crois pas, mais c'est une chose qui ne regarde que moi, finalement.
Et que vous ne souhaitez pas imposer.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous décrire l'un des portraits d'un grand artiste qu'il y avait dans votre chambre quand vous étiez adolescent?
Alors, vous savez, moi, j'aime aussi les choses les plus profanes, mais alors au sens parfois le plus bête. Dans ma chambre d'enfant, j'avais des posters de David Bowie.
Vous voyez. La musique de David Bowie a pris dans mon existence la place du liturgique.
Exactement. J'ai toujours vécu les choses, que ce soit le rock'n'roll, la pop musique, ou l'amour, le sexe, de manière absolue, enfin, comme si ma vie en dépendait. Je crois qu'elle en dépend. J'ai même vécu les choses les moins sérieuses, comme ça, avec un grand sérieux. Et je pense que David Bowie, dans l'incarnation qui était celle de Ziggy Stardust à une époque, bon, c'était mon idole, pour le dire bêtement, avec un langage enfantin. Pour moi, il occupait la place vide de Dieu, de celui
que je... C'était votre divinité?
Oui, voilà, je pensais à Bowie de manière intense. Il m'apportait quelque chose.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h le dimanche.
Sur la première.
Et c'est Yannick Hanel, notre invité, fan de Bowie, de poésie et du Caravage. La solitude Caravage, c'est l'un de vos derniers livres et dans les toutes dernières pages, vous écrivez « Le miracle de l'art est celui auquel je crois. J'aimerais que ce livre ne s'arrête pas. Je voudrais continuer à vivre avec le Caravage. » Alors je me suis demandé, comment ça va depuis... que vous vous êtes un peu éloigné du Caravage, Yannick Hanel.
C'est une belle question, je vous remercie. Écoutez, ça va bien. C'est vrai que ça allait mieux quand j'écrivais ce livre. C'est ce que j'aime le mieux. Enfin, je suis en train d'en écrire un autre, mais parfois on rejoint son propre désir. Moi, je le rejoins en écrivant. Et l'intensité qui était la mienne, enfin qui était même pas la mienne au fond, qui était celle de la matière du livre, enfin, c'est-à-dire comment regarder une toile, qu'est-ce qu'on peut en dire. J'ai fait ça pendant un an et demi et ça a été d'extraordinaires moments de recherche, de trouvailles, de dessaisissement, mais aussi de découverte. Et donc effectivement, je crois que c'est la première fois, et comme ce n'était pas un roman, il n'y avait pas de construction, de composition, c'est la première fois que je me suis dit, mais pourquoi terminer ce livre après tout? Il y a toujours des tableaux du Caravage, il n'y en a que 65, mais je les ai...
L'envie du livre infini.
Voilà. Et alors c'est là qu'intervient ce qu'on appelle un éditeur, qui à un moment dit « bon écoute, ça va maintenant ». Et donc je l'ai fini, mais je l'ai fini à regret, parce que je crois qu'évidemment cet entretien que j'ai silencieusement avec le Caravage est infini, comme tous les bons et vrais entretiens. Et puis il y avait un rapport amoureux qui s'était instauré, non pas entre le Caravage et moi, mais entre ces toiles et ce qu'elles me révélaient de la vie, des secrets, du mal aussi. Enfin, la part ténébreuse du Caravage est bien connue. J'en aurais eu pour beaucoup plus longtemps.
Est-ce qu'en quelques mots, ou plutôt en quelques phrases, vous pouvez nous dire qui était le Caravage, ce peintre italien né à la fin du XVIe siècle et qui a eu une vie dense mais plutôt courte?
Ah bah écoutez, je pourrais vous en parler pendant des heures, je vais essayer d'être
en
bref.
En 2 minutes par exemple.
En 2 minutes. C'est un peintre qui a ceci de particulier, qu'il invente ses fonds noirs, ses fonds nocturnes. On est vers 1575 quand il arrive à Rome. On commence à vivre les débuts de la contre-réforme. Et donc ce peintre, qui est un homme très irascible, un jeune homme très véhément, très batailleur, qui se bat sans cesse, qui va faire beaucoup de prison. Il a un casier judiciaire énorme, et d'ailleurs grâce à ça on a des archives. Cet homme est...
Il a commis un crime.
Il a commis aussi un crime. Il va participer d'un programme du catholicisme qui s'appelle la contre-réforme, où l'art va être beaucoup plus... les églises vont mettre à disposition des peintres beaucoup plus de place. Ils vont commander. Le marché de l'art, si je puis dire, à ce moment-là, s'amplifie. Et le Caravage va devenir le grand peintre sacré de l'église catholique, alors même qu'il est une espèce de révolté. Moi, j'utilise ce mot qu'on n'utilisait pas à l'époque, évidemment, d'anarchiste. Au fond. Il n'est pas sûr qu'il croyait, lui, non plus, à Dieu. Et pourtant, c'est lui qui décrit sur ses tableaux des tableaux très violents, très ténébreux, qui décrit des mises à mort, mais aussi qui décrit des moments de l'Évangile. Parmi les plus beaux, bon, il y a Rembrandt, évidemment, mais il y a le Titien, mais je crois que le Caravage, qui meurt à 39 ans, enfin, est quelqu'un qui a saisi... comme Rimbaud aussi, bien plus tard, qui a saisi quelque chose de la puissance de la parole telle qu'elle s'incarne dans quelqu'un comme Jésus, qui était un jeune homme comme lui, si je puis dire. Il y a quelque chose d'une jeunesse de l'être, si je puis dire, qui se peint là, à la fin du XVIe, au début du XVIIe, qui rompt avec la Renaissance, qui rompt avec l'harmonie du monde, la croyance en l'harmonie. Et il nous rend, pour la première fois, grâce à des modèles qu'il trouve dans la rue, des ragazzi, des prostituées aussi, il nous rend à une incarnation très sexuée, et qui étrangement, et c'est ça qui est beau pour moi, enfin, c'est qu'il y a du sexuel et il y a du sacré en même temps. Et je me dis, grâce au Caravage, pas que grâce à lui, mais grâce au Caravage quand même, que la part sexuelle et la part sacrée ne sont pas contradictoires.
C'est lié.
C'est lié.
Il y a un pont.
Il y a un pont. Voilà, mystique et érotisme en même temps.
Votre première rencontre avec le Caravage, elle est précisément sexuelle, hein, on peut le dire ainsi. Alors vous avez rencontré le Caravage sans savoir que c'était le Caravage. On pourrait avoir l'impression que vous avez tout inventé. Vous étiez enfermé dans l'un des lycées de la Défense française. Vous l'avez découvert au travers de la photo, ou plutôt d'un morceau d'une de ses peintures. Photo en couverture de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Oui, j'ai 15 ans, je suis au Prytanée militaire de la Flèche dans les années 80. Je souffre, disons. Et dans la bibliothèque de ce lycée militaire, je tombe sur effectivement un album de vulgarisation de peinture italienne avec des photographies en noir et blanc. Et je tombe raide dingue, fou amoureux, enfin, c'est un coup de foudre.
Ouais.
Non seulement esthétique, mais vraiment amoureux, enfin, d'un détail, et effectivement, c'est ce qui est en couverture de ce livre, c'est une femme aux cheveux châtain clair, qu'on voit en buste, disons, et qui a les sourcils froncés, et ce froncement de sourcils qui m'émeut à cette époque-là formidablement, rime avec un autre froncement, celui des lacets qui serrent vigoureusement son corsage, qui fait bomber sa poitrine, qu'on voit, qu'on devine par transparence, et il y a un effet d'humidité. On se demande un peu en la regardant, elle surgit sur fond noir, ce qu'elle fait de ses bras, elle a l'air d'être en train de faire un travail de force. Voilà, je n'en savais pas plus, mais cette incarnation féminine venue d'une nocturne m'a requis, je pourrais dire comme ça plaisamment, parce que tout ça est vrai,
ouais, enfin,
que c'est ma première femme. Voilà, c'est la première femme dans ma vie. C'est là que j'ai rencontré mon désir, au fond, avec... Il y avait... C'était parfaitement ça. Alors après, ça a été très difficile dans ma vie, vous voyez, pour rencontrer en vrai des femmes.
Et vous étiez justement avec une femme à 30 ans,
oui,
quand
15,
vous
15 ans
arrivez dans un musée, et que vous voyez l'entièreté de la peinture.
Ben, je ne savais pas que c'était... j'avais vu que c'était une peinture, hein, mais je n'en savais pas plus. Puis j'avais oublié, j'avais 15 ans. Et 15 ans plus tard, effectivement, en touriste à Rome, pendant les vacances de Pâques, avec une femme, je tombe sur ce tableau qui m'avait hanté à tel point que j'avais rebattu les oreilles de cette femme à longueur de journée en lui parlant de cette femme à laquelle elle ressemblait, évidemment, puisqu'on est toujours fidèle à son désir. Et je m'aperçois, et là c'est une petite scène de comédie, comme on en a tous, enfin, je m'aperçois que cette femme était en train, puisque là il y avait le tableau en entier, elle était en train de découper la tête d'un homme. Et je comprends que donc il s'agit de Judith, une héroïne biblique, qui tranche la tête d'Holoferne, un général assyrien dont l'armée était en train d'assaillir Israël, enfin la ville de Béthulie, et Judith donc va sauver Israël en tranchant la tête de cet homme. Et je comprends donc que c'est une tueuse, entre guillemets, même si elle tue pour le bien, et que peut-être, en un sens, ça continue à parler de mon désir, à savoir que cette tête, que cette femme tranchée était en un sens la mienne, enfin métaphoriquement. Donc que là, Eros et Thanatos me jouent un tour pendable, et cette femme comprend ça très bien, que ça parlait de moi. Et là, je l'ai raconté en un raccourci. Alors, vous avez raison, c'est un peu plus compliqué, mais elle s'est éloignée de moi. Voilà. Elle a vu quel fou j'étais, quelles étaient la nature ténébreuse de mes égarements.
Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, Yannick Hanel ?
Alors, je le fais.
Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voyez ?
Je continue à vous voir, parce que... Ma rétine, vous avez impressionné ma rétine, mais ça ne change rien pour moi.
Mais il paraît qu'une lumière apparaît. Vous parlez de cette lumière favorable qui s'allume sous nos paupières.
C'est-à-dire qu'en allant revoir à peu près tous les tableaux du Caravage pendant un an et demi, parce que je raconte dans ce livre aussi les voyages que je fais face au,
votre périple.
Voilà, le fait de rester plusieurs heures face à des tableaux, au lieu d'y rester cinq minutes comme on fait dans, les musées. J'aime beaucoup faire ce que vous m'avez invité à faire, c'est-à-dire à fermer les yeux et à voir ce qui se dépose au fond des, paupières. Parce qu'au fond, j'ai beaucoup vécu en, Italie à une époque à Firenze et à Florence. Alors c'était autre chose, c'était la peinture de la Renaissance et la peinture à fresque. Et la peinture à fresque a ce site particulier qu'elle, respire sur un mur. Vous voyez, c'est pas comme, comme dans les musées avec la, cette lumière artificielle. Mais quand on ferme les yeux, je me dis qu'on pense mieux. Et peut-être qu'on voit mieux.
Mais qu'est-ce qu'on voit ?
Mais on voit ce qui échappe aux images. Je pense que notre, je dis notre problème, j'ai l'air prétentieux à dire ça, mais la civilisation occidentale est fondée de plus en plus, enfin aussi pour son malheur, sur la saturation des images. Alors les archives, c'est très bien, mais il me semble que les images ne nous mènent pas à voir. La plupart du temps, les images nous empêchent de voir. Et réhabituer son, acuité de vue à voir passe par un, réapprentissage de la peinture. La peinture, c'est pas de l'image. La peinture, c'est autre chose que de l'image. Pour moi, c'est une parole qui se dit autrement, qui se dit avec des pigments.
Il est question de voir l'extérieur, de vous voir vous, de voir ce studio de radio.
Ouais.
Mais il est question aussi de ce que l'on voit à l'intérieur, de la naissance du visible en nous, pour vous citer Yannick Hanel.
Oui, je pense que ces choses-là relèvent d'une, expérience, là encore, spirituelle. Enfin, il y a une,
Vous parlez d'ailleurs, il y a une belle expression à un moment dans votre livre, vous parlez d'un pays spirituel.
Oui. Le pays où j'aimerais vivre, le pays que j'ai rencontré en lisant Rimbaud, en lisant Aube de Rimbaud dans Les Illuminations, un pays qui peut-être n'a pas, de, qui ne se trouve sur aucune carte. Et encore heureux finalement. Mais c'est un pays qui serait la poésie elle-même. Et il y a une, expression de Maître Eckhart que j'aime beaucoup. Il parle dans l'un de ses sermons du saut ardent vers l'intérieur. Et il me semble, en, quand on est confronté à, une peinture, ou, enfin, je sais pas, un cadre qui nous, plaît, que si on s'y voue, si on, s'ouvre, si on se rend disponible plus de trois minutes, disons, si on se rend vraiment disponible à ce qui se joue là, de ce rapport, il me semble qu'on entre dans ce pays qui n'est ni celui qui est représenté sur le tableau, ni celui qu'on a à l'intérieur de nous, mais qui est dans un entre-deux. Et c'est un pays où se désactivent les rapports de force, où se désactivent peut-être les mauvais penchants, la peut-être la mauvaise politique aussi, tout, ce qu'il y a de, non abouti dans nos vies, tout ce qu'il y a de conflictuel aussi.
Qu'est-ce qui reste ?
Eh bien là, c'est difficile de le qualifier en une formule. Il faut un livre tout entier, vous voyez ce que j'ai fait pour le Caravage. Il reste, il reste une contrée d'inflexion, une contrée où, on est sommé soit de trouver les mots les plus justes, soit de se taire. Il reste l'amour, voilà. Un amour qui n'est peut-être pas destiné à... une personne, ni même à une divinité, mais un amour qui s'ouvre tout seul, voilà. Quelque chose d'un peu mystérieux, et qui est parfois déchirant, mais qui peut aussi nous faire du bien.
Vous ressentez ça souvent ?
Non, là j'ai l'air de parler comme si je savais ça, je le sais pour moi, mais ça m'arrive pas tous les jours, malheureusement. Mais si j'ai écrit ce livre sur le Caravage, c'est aussi pour rendre compte de ces moments très rares, et aussi parce que je postule que c'est ça la, grande chose, que c'est ça l'essentiel. Ça arrive, cette montée d'intensité, cette intensité qui s'architecture elle-même, ça arrive quand on y travaille, c'est-à-dire quand on regarde les tableaux, quand on, y revient, quand on pense à ça, quand on se dégage, quand on dégage nos sens, comme dit Rimbaud justement, il parle de ça, du dégagement des sens. Et là, de manière quasi méditative, mais ça peut être très léger aussi, je ne sais pas comment on y accède de manière très différente selon les jours, alors se passe ça. Et c'est toujours grâce à l'art, enfin dans ma vie, c'est toujours grâce à l'art que ça arrive.
La première,
13h15, 14h le dimanche,
et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
L'esprit européen soufflera sur notre grand dictionnaire dans quelques minutes. Martin Legros nous rejoindra. Avant cela, c'est l'écrivain Yannick Hanel que nous retrouvons. Quand j'écris, je vois le monde en feu. Le visible brûle et de grandes joies gratuites se révèlent. Ce qui meurt doit mourir, ce qui doit naître naît. D'où viennent ces visions, Yannick Hanel ?
Oh, mais je crois que c'est la scène sacrificielle qui nous précède, au fond, qui est là à chaque instant, qui structure tous les phénomènes. Je sens, alors peut-être je suis en train de divaguer salement devant vous, mais je crois qu'il y a sans cesse un embrasement qu'il est assez bon de rejoindre, parce que sinon nos pauvres vies ne sont presque rien. Moi, quand je m'accorde musicalement à ce feu que je ressens, qui est un feu qui n'est pas en moi, j'aimerais qu'il soit en moi, mais j'essaye de me l'approprier, qui est un feu qui est dans l'amour, dans l'art, enfin, quand j'essaye de m'injecter ces choses-là, alors je vois ce feu. Je vois le feu, comme dit Isaac à Abraham, vous savez, sur le mont Moria. Mm-hmm. Dit, je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas le bouc. Et Abraham va lui faire comprendre que le bouc, c'est lui qui va être sacrifié. Il y a quelque chose, pour le dire en termes comme ça, en termes bibliques, je pense que ce qui nous ouvre les yeux, c'est-à-dire l'art, pour moi, vient d'une mémoire très ancienne, vient de l'immémorial lui-même, et d'une scène comme ça, j'ai improvisé ça quand je vous parle d'Abraham et d'Isaac, vient de ce moment où on est consacré, comme Isaac, par le fait qu'on a failli mourir, mais un ange a retenu le bras, vous voyez. La gorge qui était destinée à mourir, mais qui est sauve, l'indemne. On parlait tout à l'heure de l'indemne. Ouais. Je pense que cette position-là...
C'est le qui vive ?
Oui, ça a quelque chose de... Ça met du sacré sur la situation. Et cet allumage, ce qui vit, voilà, c'est la condition même d'une liberté. Pour moi, le feu qui est celui de l'esprit, peut-être, je ne sais pas, ou le feu des plus beaux rapports, au fond, le feu de l'amour. Alors, j'ai l'air de citer une série oui. Totalement ringarde, mais ce feu est là... À chaque instant, pour peu qu'on ait envie de s'y embraser. Enfin, voilà. Vous avez compris qu'en fait, je ne raisonne qu'en termes passionnels. Voilà, c'est la moindre des choses pour moi.
C'est la moindre des choses.
Ouais. Ah bah oui, sinon quel intérêt ? Je m'en fous. Moi,
rapport à quoi ? Par rapport à qui ?
Mais la plupart des choses ne m'intéressent pas. Et vous savez, j'ai essayé d'organiser ma vie de manière un peu... anarchiste peut-être en refusant beaucoup de choses, en essayant de ne plus travailler, voilà. Vous savez, il y avait cette inscription en 1953 sur les bords de la Seine par Guy Debord, c'était « Ne travaillez jamais ». Malheureusement, j'ai dû travailler, j'étais pauvre, voilà, mes parents aussi. Et puis, je me suis dit « Je veux faire qu'écrire », et voilà. Et donc, c'est pour vous dire que il y a aussi un acte de rupture chez moi. C'est pas seulement un acquiescement aux choses, c'est pas seulement une conciliation, c'est que le reste ne m'intéresse pas. Il y a que ça qui m'intéresse, il y a que cet absolu-là. Il y a que le Caravage, il y a que Rimbaud, il y a que la poésie. Le reste, je m'en fous, en fait.
Entre parenthèses, dans votre dernier livre, vous glissez cette phrase. Les victoires sont toujours secrètes.
Oui, parce que j'ai... D'une part, je le pense. Je pense que ce qui se gagne sur nous-mêmes, enfin nos avancées intimes, n'ont pas à être déclaratives, parce que ce serait une manière de les corrompre, peut-être. D'autre part, je pense que les grandes choses, les grands événements arrivent à pas de colombe, a dit Nietzsche. Enfin, il y a quelque chose que le silence protège mieux que la déclaration, voilà. La victoire, pour moi, c'est une des plus belles choses. Enfin, être victorieux, mais pas contre quelqu'un, c'est être victorieux sur soi-même. Enfin, j'ai l'air de parler comme un prêtre, là.
C'est vous qui le dites.
De faire un sermon. Mais j'espère qu'on entend aussi mon rire derrière ça. Oui, voilà, je crois que c'est Jean Genet qui dit dans le Journal du voleur « Ma victoire aura été verbale ». Jean Genet dit ça contre la société française et j'aime son bras d'honneur. Enfin, moi, je pense que mes victoires, j'espère qu'il n'y en a pas qu'une seule, elles sont réservées dans le pli des phrases. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre, mais à travers des phrases. Donc, il faut encore faut-il les lire, les déchiffrer.
La solitude caravage, le sens du calme ou encore tout est accompli. Votre dernier essai coécrit avec François Méronis et avec Valentin Retz. Trois titres ajoutés sans hésiter à votre liste de livres à lire. Merci